France Culture. Le journal. Mathilde Cariou.
Bonjour à tous. Les États-Unis peuvent-ils garantir la sécurité de l'Ukraine? Volodymyr Zelensky est en Floride aujourd'hui pour négocier un accord de paix. Dans cette édition, nous irons en Centrafrique. Élection présidentielle aujourd'hui, le candidat sortant soutenu par la Russie. Élection également au Kosovo, législative cette fois après des mois de blocage au Parlement. Et puis quand Noël est synonyme d'isolement, les associations d'aide aux victimes de violences conjugales alerte sur les dangers de ces périodes de fêtes. C'est peut-être en Floride que se joue l'avenir de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a rendez-vous avec Donald Trump aujourd'hui pour évoquer les contours d'un accord de paix à proposer à la Russie. Les sujets de discorde sont nombreux, le gel de la ligne de front, les territoires occupés, la gestion de la centrale de Zaporizhzhia. Alors les Européens comptent sur cet accord pour assurer la sécurité de l'Ukraine, mais ils doivent composer avec un allié américain, parfois difficile à cerner. Gwendal Lavina.
Le fait que cette rencontre se tienne est déjà un signal en soi qu'il y a des avancées significatives dans les discussions. Donald Trump a en effet assuré qu'il ne rencontrerait à nouveau son homologue que si un accord était proche. Volodymyr Zelensky explique, lui, que les derniers points à régler ne peuvent l'être qu'au plus haut niveau de représentation des deux pays. Un membre de l'administration américaine a affirmé mercredi que plus de progrès ont été faits ces deux dernières semaines que depuis un an, fruit du travail de l'émissaire américain Steve Witkoff et de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Mais le président ukrainien n'arrive pas en terrain conquis. Loin de là, les Russes ont déjà expliqué que les derniers amendements de l'accord ne font que torpiller les espoirs de paix. Et malgré l'appel de plusieurs élus du Congrès, y compris républicains, à mettre davantage de pression sur Moscou, le président américain n'a pour l'instant pas montré de changement de posture avec Vladimir Poutine.
Emmanuel Macron, de son côté, condamne les frappes russes d'hier sur la capitale ukrainienne. Elles sont le signe dit-il, que la Russie est déterminée à prolonger la guerre qu'elle a déclenchée. En Centrafrique, les miliciens russes de Wagner patrouillent dans les rues de la capitale. Jour de vote pour l'élection présidentielle. Le président Touadéra est au pouvoir depuis 2016. Il brigue un troisième mandat et pourrait bien l'emporter, Omar Waman, grâce au soutien de la Russie.
Depuis que le président Faustin Archange Touadéra a sollicité l'aide de Moscou pour lutter contre les rebelles qui progressaient en direction de Bangui, la capitale, en décembre 2020, la Centrafrique est devenue l'une des plus proches alliées de la Russie sur le continent africain. Symbole de cette alliance, une fresque murale près de l'aéroport représentant Vladimir Poutine serrant la main de son homologue centrafricain. Pour Moscou, cette œuvre est un signe de la victoire contre le chaos et l'instabilité, mais en réalité, elle illustre surtout le rôle capital joué par la milice Wagner dans le soutien au président Touadéra. L'appui du groupe paramilitaire russe lui a permis de sécuriser la capitale, de reprendre des villes stratégiques et de renforcer sa position politique et donc électorale. Mais en échange de cet appui, qui comprend également la sécurisation du scrutin de ce dimanche, Wagner a obtenu des concessions dans des secteurs clés, mines d'or, diamants ou exploitations forestières.
Élection présidentielle également en Guinée. Ce matin, les bureaux viennent tout juste d'ouvrir. Législative aussi en Birmanie et puis au Kosovo. Après des mois de blocage au Parlement, le Premier ministre sortant reste le favori, mais peu de chances que sa réélection mette fin à l'impasse. Notre correspondant Louis Seyé est allé à la rencontre des habitants dans la capitale kosovare.
Assis sur un banc près du marché de Noël du centre de Pristina, Meyrem s'apprête à se rendre aux urnes pour la deuxième fois de l'année sans enthousiasme. Cette magistrate à la retraite ira voter pour le parti de gauche du Premier ministre sortant, Albin Kurti.
J'ai peur que les partis de l'opposition reviennent au pouvoir. Ces partis sont connus pour leurs affaires de corruption, pour la mauvaise gouvernance. Si ces gens reviennent, c'est tout le pays qui va être ramené en arrière.
Accusé de dérive sectaire par ses opposants, Albin Kurti met en avant sa politique de fermeté face à la Serbie voisine qui refuse toujours de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Une position qui plaît à Rome, même si cet étudiant attend plus de résultats concrets sur la scène intérieure.
D'un point de vue politique, le Premier ministre a réussi à tenir tête à la Serbie. Serbie, notre ennemi historique, mais sur l'économie ou l'éducation, je ne vois pas de grands changements.
Dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe, durement touché par l'inflation, beaucoup de Kosovars sont lassés des antagonismes politiques et des blocages parlementaires. C'est le cas d'Agon, un analyste de données de 33 ans.
Il faudrait qu'on se développe économiquement, que notre niveau de vie augmente, qu'on attire des investissements étrangers et que les politiques arrêtent de faire dans le populisme.
Si aucune majorité parlementaire ne se dégage à l'issue du scrutin, le Kosovo pourrait sombrer dans la paralysie institutionnelle et se retrouver privé d'importants financements internationaux.
En France, plus de la moitié des bovins du Sud-Ouest sont désormais vaccinés. C'est la ministre de l'Agriculture qui l'annonce bientôt. 2 semaines après le début de la mobilisation agricole contre l'abattage systématique des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire. Quelques blocages sont toujours en place en Occitanie sur l'A75, mais la plupart des barrages sur l'A64 ont été levés vendredi. À Lille, un homme vient d'être mis en examen pour meurtre après la mort de son épouse. Le soir de Noël, elle a été retrouvée à son domicile avec plusieurs dents cassées, le corps recouvert d'hématomes. Son conjoint refuse toujours de reconnaître les faits. En cette période de fête, les associations d'aide aux victimes alertent. Les rassemblements familiaux ne sont pas toujours synonymes de répit pour les victimes de violences conjugales. Au contraire, les quelques jours entre Noël et le Nouvel An peuvent être l'occasion de violences. Alexis Arad.
Paradoxalement, cette période de rassemblement en famille ou entre amis peut être un facteur d'isolement social. Florence Bretel est gynécologue obstétricien et chef de service à la Maison des Femmes de Marseille.
Le fait que les femmes soient en fait sur leur domicile avec plus de difficultés à sortir, un peu ce qui s'est passé pendant le confinement en fait. C'est de l'isolement, on va dire. On parle de coercition, de mécanismes de ce type-là, avec voilà, plus de contrôle sur la femme.
S'il n'existe pas de chiffres en France sur le phénomène, d'autres études, comme au Royaume-Uni, montrent une augmentation des violences et des demandes de mise à l'abri de l'ordre de 10%. Avec ce facteur aggravant, la difficulté de trouver de l'aide en ces périodes où les centres spécialisés ne tournent pas à plein régime.
Les structures, qui sont, que ce soit les structures associatives ou la Maison des Femmes, qui est une des structures sur le territoire qui peut aider ces femmes, bah c'est des périodes où il y a des congés, donc on est en sous-effectif. Donc on ne peut pas fonctionner à plein rendement sur ces périodes-là. La charge de travail individuelle, elle est élevée. Je pense qu'effectivement, on n'a pas les moyens, nous, de répondre avec des délais courts aux demandes des femmes.
Florence Bretel ajoute que les violences conjugales ne sont pas les seules concernées. Les violences sexuelles, elles aussi, sont favorisées en ce moment, avec la multiplication des contextes festifs et souvent alcoolisés.
Alexis Arad. Des appels au don du sang en cette période de Noël. L'EFS, l'établissement français du sang, alerte sur la baisse de ses réserves. C'est le cas chaque année et pourtant 10 000 dons par jour sont nécessaires pour couvrir les urgences et les traitements, explique Olivier Duras, superviseur de la campagne à Nancy.
C'est une collecte qui est très importante dans la mesure où, dans cette période-là, les donneurs sont quand même moins nombreux à venir sur nos collectes et dans nos maisons du don, parce qu'ils ont les préparatifs des fêtes à organiser. Et puis, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a beaucoup de gens malades qui ont des grippes, qui ont des embarras gastriques, des gastro-entérites. Donc, beaucoup de ces personnes-là ne peuvent venir. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'on maintienne quand même un niveau de stock suffisant. On a besoin de 1500 dons par jour en Grand Est. Pour soigner les malades, il faut savoir que les malades, eux, restent dans les hôpitaux et les cliniques. Donc on a besoin de soigner ces malades et puis de soigner aussi les malades en ambulatoire qui bénéficient de transfusions.
Olivier Duras au micro d'ici Sud-Lorraine. Enfin, c'est un match qui a marqué l'histoire, la bataille des sexes 1973 à Houston. Car sur le court de tennis, ce jour-là, s'affrontaient un homme et une femme, Bobby Riggs contre Billie Jean King. C'est elle, Billie Jean King, qui a gagné. Et aujourd'hui, à Dubaï, Aryna Sabalenka espère bien faire de même contre l'Australien Nick Kyrgios. Le match de 73 est resté dans les mémoires et pour cause, il a entraîné un changement de mentalité. C'est Billie Jean King elle-même qui le dit au micro de France Culture.
Des femmes m'ont abordé pour me dire qu'elles avaient baissé les bras, mais qu'à présent, elles avaient retrouvé un sens à leur vie et qu'elles se sentaient à la hauteur. Peu importe de quoi il s'agissait. Un jour, je me suis rendue dans les locaux d'un journal et un groupe de femmes s'est précipité vers moi pour me remercier. Elles m'ont dit, vous savez, cela fait 10 ans qu'on veut demander une revalorisation de salaire, mais on n'a jamais eu le cran de le faire. On a regardé votre match et cela nous a donné un nouvel élan. Des hommes venaient également me parler, c'était incroyable. Leur approche était plus réflexive. Ils avaient souvent la larme à l'œil et ils me disaient
«
Je n'ai jamais vraiment pensé à ma fille, mais quand j'ai regardé le match, cela m'a fait réfléchir. Depuis le jour du match, il ne se passe pas un jour sans qu'on me le rappelle. Et aujourd'hui, c'est vous qui en parlez. »
Billie Jean King dans un entretien exceptionnel à découvrir aujourd'hui dans une histoire particulière. Rendez-vous à 13h sur France Culture. Le temps de ce dimanche est toujours glacial. -1 à Vichy, 0 à Auxerre, 4 petits degrés à Brest et 12